La quête du Jésus historique, c'est pareil. Quelle vérité dans la Bible? Jésus a-t-il vraiment existé? Est-ce qu'on ne se fourvoie pas en disant que Monsieur Jésus existait il y a 2000 ans? Et au total, qui était-il? Est-ce qu'il a vraiment dit tel et tel discours, telle et telle parole, aimez vos ennemis? Est-ce qu'il a vraiment dit le discours sur la montagne? Est-ce qu'il a vraiment guéri l'aveugle né? Est-ce qu'il a vraiment fait tel et tel geste? Ou est-ce qu'on a plutôt enjolivé tout ça et essayé de faire une espèce de bête de scène ou un homme tout à fait extraordinaire, mais ou alors un homme plutôt révolutionnaire qui allait se fâcher contre les marchands du temple, dire qu'il fallait payer autant ceux qui avaient travaillé 11 heures ou ceux qui avaient travaillé une heure, etc. Vous voyez, on a essayé de reconstituer des figures de Jésus. Mais on ne sait pas, en fait, exactement qui était Jésus, sauf à travers le texte biblique. Or, on a quatre chemins. Et alors, justement, la question qui a été posée, c'est aurons-nous un jour accès vraiment à un portrait unique de Jésus? Qu'a-t-il vraiment dit? Puisque on a quand même plusieurs versions qui nous sont données. Il n'y a pas que des contradictions, hein, mais il y a quand même des nuances importantes entre les différents évangiles. Eh bien, il faut abandonner l'idée que l'on ait accès à ce Jésus historique, comme on abandonne l'idée d'avoir un jour accès à Monsieur Napoléon Bonaparte, parce qu'on ne le connaît qu'à travers ce qu'on en a dit, ce qu'on nous en a transmis. Comme on ne connaît pas les Gaulois, sauf à travers ce qu'on nous en a dit, et même si aujourd'hui certains s'en vantent. Hein, de même qu'on ne connaît pas vraiment de Gaulle, sauf à travers l'histoire ou la mémoire qu'on en a, approximative, et ce qu'on a bien voulu nous en transmettre. Mais celui qui peut prétendre expliquer vraiment qui était tel ou tel personnage, je suis désolé, c'est pas possible. Avec Jésus, c'est pareil. Donc, nous connaissons Jésus à travers ce qu'on nous en a transmis. N'allons pas chercher ou attendre ou imaginer qu'on ait accès à toutes les informations vérifiables sur le Jésus qui a vécu il y a 2000 ans. C'est peine perdue. Ça ne dévalorise nullement ce qu'on nous en dit. Moi, au contraire, je trouve que ça valorise d'autant plus. Alors, de fait, une fois ce point 2.1 vu, on passe au point 2.2, c'est-à-dire que si nous prenons acte de tout cela, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité dans tout cela. Ça veut dire que la vérité, elle va découler d'un acte de lecture du texte biblique. Que l'acte de lecture tel qu'il est remis en valeur depuis une quarantaine d'années seulement, hein, dans les études bibliques, dans les groupes bibliques, c'est récent, ne sous-estimons pas cela, c'est récent. Dans les années 70-80, les chercheurs bibliques ont regardé en catéchèse même comment on utilisait les textes bibliques. On n'osait pas entrer dans un véritable acte de lecture. On prenait des extraits, on les modifiait, on n'en prenait que des petits bouts. C'est récent qu'on ait accès vraiment aux textes bibliques et qu'on se coltine la lecture du texte. C'est récent, ne sous-estimons pas cela. Eh bien, de fait, dans l'acte de lecture, ce qui est important, c'est de voir comment la lecture, l'acte de lecture provoque un effet sur moi, lecteur. Moi, lecteur tout seul dans ma chambre, avec le livre biblique, ou moi, lecteur, quand je suis dans des groupes bibliques, ou moi, lecteur, ou plutôt auditeur, quand je suis en situation d'écouter un texte, soit en liturgie, soit parce qu'on me raconte tel ou tel texte biblique. Et ce qui est important, c'est de voir que je suis invité à me laisser toucher par le texte biblique. C'est pas un texte qui vient m'informer sur « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans ?» ou « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3500 ans ?» ou « 3250 ans lorsque les Hébreux étaient en Égypte et sont sortis d'Égypte et sont allés dans le désert. » Ça, encore une fois, comme tout à l'heure, je vais vous dire, les encyclopédies sont bien faites. Si c'est ça, je n'ai pas besoin de la Bible. En revanche, si tous ces événements ont été mis en récit et quelquefois rapportés de multiples manières, si vous regardez le nombre de références aux épisodes de l'Exode dans la Bible, c'en est truffé partout. Comment ça se fait qu'on revienne sans arrêt sur cet épisode de la traversée de la mer, sur cet épisode de la manne, sur cet épisode où par allusion, lorsque dans la prière « Donne-nous notre pain quotidien », c'est une allusion implicite à la manne dans le désert qui était donnée tous les jours. Il ne fallait pas faire de réserve. De la même manière, dans la prière de notre Père, on ne demande à pas faire de réserve et on est tous les jours en situation de demander à Dieu qu'il nous donne ce dont on a besoin au jour le jour. Eh bien, si je n'ai pas ça en tête, je ne suis pas dans la dynamique de lecture du texte biblique. Si je n'ai pas ça en tête, je laisse le récit de la manne dans l'histoire, dans l'encyclopédie, ça ne me touche pas. Si en revanche je découvre que cet épisode, il vient me toucher, parce que dans la rédaction du Notre Père, on reprend ce détail implicite de la manne, alors cet épisode de la manne, il vient me toucher, il a quelque chose à me dire. Que ce peuple hébreu qui était invité à traverser la mer, à plonger dans la mer avant qu'elle s'ouvre, il a été invité à avoir foi dans une plongée sur une parole de Moïse, moi ça me touche parce que quelquefois j'ai du mal à croire ce qu'on me dit et j'ai du mal à faire le saut ou à plonger dans la foi. Faut quelquefois s'accrocher pour y croire. Et bien là, quand je lis le texte biblique, le récit du passage de la mer de cette manière, en disant les Hébreux ont eu foi dans la parole de Moïse, Dieu ne leur avait pas parlé directement, c'est par l'intermédiaire de ce monsieur Moïse qu'ils ont eu foi. Moi, ça m'interpelle aujourd'hui, quand je demande des signes à Dieu, je voudrais bien qu'il me dise ce qu'il faut faire, et bien ce texte me dit, attends, n'attends pas une petite voix la nuit comme ça, hein, comme Jeanne d'Arc, il ne va pas te parler comme ça. C'est peut-être à travers la personne qu'on a croisée dans la rue que Dieu m'a parlé, comme le peuple hébreu a entendu la parole de Dieu à travers Moïse. Et là, pour le coup, le texte se met à me parler, vous voyez, l'acte de lecture qui m'implique et qui me rejoint dans ce que je vis. Mais si je ne fais pas cet effort d'entrer dans la lecture du récit, en découvrant ces détails de rédaction, que le peuple hébreu, quand il a sauté dans la mer n'était pas encore ouverte, et qu'ils ont plongé sur la foi de la parole en ce monsieur Moïse, sans avoir la certitude que cette parole, elle était digne de foi, sans avoir la certitude que Moïse avait été dépêché par Dieu, ou député par Dieu, ou appelé par Dieu, comme vous voulez, de fait, je passe à côté du récit, je passe à côté du texte, complètement. La mise en récit a toujours plein de détails qui sont là pour que moi, lecteur, je me laisse impliquer dans le récit. Le coup des guérisons, les guérisons, elles sont là pour me rappeler que tel ou tel personnage a eu la chance il y a 2000 ans de croiser Monsieur Jésus et d'être guéri. Il a eu du pot, lui, de vivre il y a 2000 ans puis de se faire guérir. Moi, tu parles aujourd'hui, je risque pas de le découvrir, et ben je risque pas d'être guéri de ma maladie, de ma cécité, de mon handicap, etc. Ouais. Ou je risque pas d'être guéri de tel ou tel drame social qui me touche. Il y a les guérisons physiques puis les guérisons sociales. Oui, si je raisonne comme ça, c'est sûr que ça c'est de l'encyclopédie. Autrement dit, l'encyclopédie, il y a 2000 ans, Jésus était un guérisseur, un thaumaturge, point. Pas je range ça dans mon rayonnage des encyclopédies. Si en revanche, je regarde le récit, comment il est bâti, pour que de fait, je me laisse toucher par tel ou tel détail, que je me laisse surprendre par tel ou tel détail, enfin quand même Bartimée. Jésus qui, d'abord, lui traçait son chemin, les Bartimée qui crie tout ce qu'il peut là, « Hé, fils de David, aie pitié, aie pitié !» Il devait embêter les gens, lui, à crier comme ça. Hein. Il devait être répugnant, parce que c'est le clodo du coin. Hein. Bartimée, on en fait un personnage sympa, mais pardon, c'est le clodo du coin. Répugnant comme tout, en plus qui tape tout le monde. Donc attention, et puis méfiance. Hein. Et puis la preuve, c'est que quand les disciples sont avec Jésus, ils voient cet homme empêcheur de tourner en rond, ils lui disent, vas-tu nous fichapper? Tais-toi, toi. Laisse le maître, il a autre chose à faire, c'est plus important. Et c'est Jésus qui dit, non, appelez-le. Et alors, de fait, ça c'est vraiment intéressant parce que si je me laisse interpeller comme ça en rentrant dans la narration, vous voyez, c'est pas l'histoire guérie, Jésus a guéri un homme aveugle, ça, vous voyez, encyclopédie. Si je découvre que dans la narration, il y a quelque chose qui est plus subtil dans la manière de rapporter le fait, alors je me fais prendre par le récit. Moi, quelle est ma réaction quand il y a un clodo qui me gêne ? Moi, j'ai du jambon aussi à tracer mon chemin. Et puis, de fait, je vais tout faire pour que si je suis avec quelqu'un, il ne vienne pas nous déranger, etc. Or, Jésus, c'est celui qui dit, non, lui, ce qu'il a dit, c'était important. Appelez-le. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. Ils t'ont vite casaque, les disciples, au passage. Ils te changent vite de... Non, confiance, lève-toi. Oh, quelle différence d'un coup. Et puis alors, deuxième point d'étonnement. Il est aveugle, il est répugnant, il fait la quête. Jésus est devant lui. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez donné une pièce? Ou alors, si vous êtes Jésus, vous êtes capable de guérir, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous lui auriez mis la main dessus ou la salive sur les yeux. Hop, ça y est, vous pensiez que ça allait marcher. Qu'est-ce que fait Jésus? Il lui pose une question qui est quand même extrêmement étonnante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Enfin, franchement, la manière de rapporter la guérison, je suis désolé, ce n'est pas une petite anecdote rapportée comme ça. Le rédacteur, s'il a pris le temps de donner ce détail, il s'est donné la peine pour moi, lecteur, me laisser interpeller par l'invraisemblance de cette question. C'est invraisemblable que Jésus dise « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Alors que lui, il venait de dire « Fils de David, aie pitié de moi !» Autrement dit, il avait bien trouvé en lui le guérisseur qui allait le faire sortir de cette situation. Non, il prend le temps de lui demander pour le faire advenir une expression de foi devant les autres. « Hé, Seigneur, que je vois !» Oui, c'était tellement évident. Voyez, eh bien, quelle question ça me pose, moi, cette invraisemblance du récit? Ça me pose que je suis invité, moi, sans arrêt, à formuler mes questions au Seigneur, parce que je sais bien, moi, ce dont j'aurais besoin, encore que pas toujours. Mais ce que je demande au Seigneur, quelquefois, je n'ai même pas besoin de lui demander, parce que j'espère qu'il va me devancer. Et puis, il m'arrive tel épisode dans ma vie, pourquoi Dieu n'intervient pas? Je lui en veux de ne pas intervenir et de ne pas avoir perçu ce dont j'avais besoin. Je suis exactement comme Bartimée. J'attendrai qu'il prévienne mes besoins. Or, avec l'épisode de Bartimée, je découvre qu'il va me solliciter pour que je sois en situation de me tourner vers lui et de lui adresser ma demande, mon besoin, mon attente. Il ne s'impose pas. Et c'est ça que le récit m'apprend. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas mendiant, a priori, non plus, dans cette salle. Mais on a tous des demandes à faire au Seigneur, on a tous des demandes. Et bien souvent, on en veut au Seigneur de ne pas être intervenu, alors qu'on avait tel et tel besoin. Lui, Dieu Tout-Puissant, on attendrait tellement qu'il résolve tout. Non, il attend qu'on se tourne vers lui dans une démarche de foi. Alors, il va écouter, alors il exaucera notre demande. Mais il n'anticipe pas pour ne pas pousser et ne pas forcer notre liberté, pour ne pas nous violenter. Voilà un exemple d'épisode qui, historiquement, est peut-être vrai, historiquement, a peut-être été retravaillé, je n'en sais rien, mais qui, dans la manière dont il était mis en récit, vient moi m'interpeller si je prends le temps de le regarder un peu dans les détails, si moi je prends le temps d'entrer dans la scène et si je me laisse interpeller par la manière dont le rédacteur a pris soin de rapporter la narration. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'appelle le lecteur impliqué. Je me laisse impliquer dans la scène. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas mendiant, mais je découvre à travers ce Bartimée que le Seigneur ne vient pas forcer ce dont j'ai besoin. Il attend que je me tourne vers lui, que je sois en situation de lui demander. Il ne va jamais me forcer. Et je dois donc nécessairement interpréter ce texte. Si je prends le texte au pied de la lettre, j'en fais un récit dénaturé de guérison, un parmi d'autres. Il n'y a pas besoin de ce récit-là, il y a d'autres personnes qui sont guéries dans la Bible. Je n'ai pas besoin de 15 récits de guérison. Des guérisons d'aveugles, il y en a plein dans la Bible. Pourquoi Bartimée en plus? En revanche, si j'interprète cette question de Jésus à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Si je l'interprète comme une parole qui peut me toucher, moi personnellement, dans mes manques, dans mes attentes, alors je suis dans cette situation que le texte devienne parole, devienne parlant pour moi. Là, je fais une interprétation. Et c'est ce que l'Église nous invite à faire, mieux que ça nous oblige. Elle nous oblige à traiter les textes bibliques de cette manière, de les lire au plus près pour mieux les interpréter, pour mieux se laisser impliquer dans ces récits. Et c'est bien pourquoi l'interprétation est impérative. J'ai pas dit interpréter n'importe comment. J'ai pas dit tirer la couverture à moi ou faire des élucubrations. D'accord ? Je n'ai pas dit prendre au pied de la lettre et interpréter quand il dit, tiens, telle personne, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Et puis, si tu as péché, ben, va prendre une meule, tu te la mets au cou, tu te jettes dans la mer. Il a jamais dit qu'il fallait prendre ça au pied de la lettre. Au contraire, s'il dit cela, c'est pour que je puisse interpréter, Seigneur, cette sentence est trop dure, ça me parle trop, c'est trop violent, toi tu me dis que tu es Dieu amour, je dois interpréter ta parole, comment ? Et là le chemin est ouvert, et j'ai besoin les uns des autres, et j'ai besoin de l'Église pour interpréter d'une manière qui soit ajustée. J'ai toute la tradition de l'Église pour interpréter. C'est ce qu'on appelle l'interprétation de l'Écriture en Église. Et puis, je suis invité à mettre en correspondance, en concordance, des textes. C'est la lecture canonique. C'est le coup que je vous ai fait tout à l'heure. Dans notre Père, donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. J'ai fait une lecture canonique en disant, je mets en balance cette phrase avec le récit de la manne dans l'Ancien Testament. Parce que les deux sont dans la Bible. J'ai le droit de les mettre en écho. D'accord ? J'ai le droit de les mettre en écho. J'ai le droit de mettre en écho le fait que Jésus guérissant Bartimée, eh bien, il lui donne de voir que de fait, dans le Nouveau Testament, le voir, l'importance de la vision, c'est pas seulement la vision du corps, c'est aussi la vision du cœur. C'est que le Seigneur, il vient guérir ma cécité ou mon imperfection de vision. Hein, j'ai une prothèse, moi je ne vois pas 10 sur 10, mais avec la prothèse ça va, qu'on appelle lunettes. Mais en revanche, sur le plan de la foi, j'ai aussi une non-vision totale de la foi, une non-vision totale du mystère de la résurrection. Et j'ai besoin de lui, que veux-tu que je fasse pour toi ? Ben, que tu m'aides à avoir une meilleure clairvoyance sur ton projet pour moi et sur le mystère que tu me donnes dans ta résurrection. Voilà. Et puis, n'oublions pas que l'interprétation, elle se fait en considérant les genres littéraires différents. Quand Jésus, encore une fois, prend une parabole, comme le Samaritain, le dit bon Samaritain, il n'est pas en train de dire « voilà exactement ce qui s'est passé ». Il bâtit une histoire pour répondre à la question du légiste. Je ne dois pas le prendre au pied de la lettre. Je dois automatiquement faire fonctionner mon interprétation. L'épisode du père et des deux fils, du fils prodigue, ça ne veut pas dire que ça s'est passé comme ça, c'est une parabole. Et donc je dois automatiquement me poser la question, Seigneur, quel est le message que tu me donnes à travers cette histoire que tu es en train de me raconter ? À travers ce récit, les fameux ouvriers de la 11e heure, ça ne veut pas dire que Jésus a donné un enseignement de politique salariale qui consiste à payer tout le monde de la même manière. Il n'a pas dit ça. C'est une parabole pour dire quelque chose de la vie du royaume et du salaire d'amour donné par Dieu qui est donné, lui, de façon inévitable, égale pour tous. Mais il n'a pas dit que c'était comme ça qu'il fallait payer ici et réguler les relations sociales et salariales sur Terre. C'est une parabole. Donc, faisons attention. Les discours ne sont pas traités de la même manière qu'un récit. Et lorsque j'entends un texte biblique, c'est une question que je dois porter. En ce moment, on est à la fin de l'année liturgique, on va bientôt entrer en avant. On est baigné dans les textes qui font peur. Hein, si vous allez à la messe en ce moment, et même les textes du dimanche, on a l'impression que tout s'écroule, que tout fiche le camp. Regardez, il y aura des éclairs, tout le monde va disparaître, c'est la fin, etc. Pardonnez-moi, ce n'est pas une description de la fin du monde. C'est un langage, c'est un genre littéraire apocalyptique. Alors apocalyptique, faisons attention, le mot ne veut pas dire fin du monde. C'est pas Apocalypse Now, hein, c'est pas Ford Coppola, hein. C'est pas le film, c'est pas la fin du monde. Apocalypse veut dire révélation, révélation d'un message de victoire au-delà des épreuves, victoire garantie par le Christ qui a vaincu la mort. Et ce message, il est donné dans le cadre d'une littérature de résistance.